Le sujet qui va nous occuper ce matin, c'est en lien avec ce que nous avons partagé ce matin. Sans nous concerter, nous avons réalisé que nous vivons par grâce, il est question de libération, question de pardon de péché, de nouvelle vie. Il est question aussi de notre place dans ce cheminement-là. Et nous avons arrivé à la conclusion, nous sommes arrivés à la conclusion que nos efforts sont inutiles, sont vains, nous sommes incapables d'eux, mais seulement le Seigneur, Dieu seul, est capable. Et quand nous parcourons la parole de Dieu depuis la Genèse jusqu'à la vision de Jean, l'Apocalypse, nous voyons que ce soit le peuple hébreu ou que ce soit le Nouveau Testament, c'est quand le peuple de Dieu fixe le regard sur le Créateur, c'est là où il avance. Dès que le peuple de Dieu commence à se regarder, à se contempler, à se critiquer, ce que vous voulez, là, on remarque une stagnation. Il n'y a rien de nouveau, parce que même dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. À nos enfants, on leur dit, regarde plus loin. Ne regarde pas ce qui se passe là, mais ça va te servir, tout ce qui est de l'erreur. Même, je vois avec mon fils Ryan, ce matin, encore il commence. Mais je ne vais pas réussir, mais j'ai raté. Il a fallu m'expliquer. Mais comme tu sais maintenant que tu as raté, tu sais comment maintenant corriger. Regarde plus loin. Oui, dans la vie, dans le bon sens de tous les jours, on l'accepte. Mais dès qu'il s'agit de la vie chrétienne, non. L'homme, la femme, tout de suite, la capacité humaine prend le pas. Non, il n'est pas question, il faut que je fasse quelque chose. La parole de Dieu nous dit, regardez à Jésus. Et souvent, quand on lit la parole de Dieu, il est question, regardant à Jésus, fixant le regard sur, comme une boussole. Et dès que cette boussole est mise de côté, l'homme est glorifié, et là, on stagne, si ce n'est rétrogradé. Bien que je ne crois pas à ce terme rétrogradé avec le Seigneur. Parce que le Seigneur utilise même nos erreurs pour nous faire avancer. Alors, toutes nos lectures de ce matin, c'était en rapport avec ce thème, regardant à Jésus. A-N-T, à la fin. Regarder à Jésus. Et je vais relire encore notre passage d'Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, et c'est ça qui me paraît le centre de notre lecture, ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Je ne peux pas la fabriquer, la foi. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Le chrétien ne peut pas avancer s'il ne garde pas le regard sur Jésus. Et encore une fois, ce n'est pas. Je dirais, c'est un enseignement, c'est une façon imagée. C'est pas que je sors et je regarde le ciel, ou quand je prie, je lève les mains et je regarde le ciel, et je peux prier en regardant le sol, c'est la prière aussi. Je peux prier en ayant les yeux ouverts, c'est une prière aussi. Je peux prier en chantant, non, mais garder le regard sur Jésus, c'est que le Seigneur devient ma priorité jour après jour, et c'est à travers lui, dans cette communion, je suis guidé dans ma vie. Parce qu'il n'y a pas de sens sur cette terre si ce n'est en communion avec le Seigneur. Nous avons lu dans Romains chapitre 11 et Colossiens chapitre 3, l'existence même de l'univers n'a de sens que parce que le Christ est là. Oui, ça dépasse le Sauveur. Parce que la Bible nous dit, tout vient de lui, Romains 11 verset 36, hein, pour ceux et celles qui veulent relire la parole de Dieu. Tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. Vous vous rendez compte? L'univers même, il n'y a pas que vous et moi. L'univers, le sens même de cette existence de la création n'a de sens que parce qu'il y a Christ. Christ est l'origine de tout, le cheminement de tout et l'aboutissement de tout. Ça dépasse nos définitions de ce Seigneur qu'on ramène seulement à cette terre qui a vécu 33 ans sur terre il y a 2000 ans sur un territoire au Moyen-Orient et qui est mort sur une croix. Mais c'est plus que ça. Ça, c'est juste une réalité limitée dans l'histoire qu'on appelle, la Bible appelle le visible, réalité limitée. Parce que Christ, il est plus que ça. D'ailleurs, la Bible nous dit, le Christ qui a vécu, vous voyez, il y a 2000 ans, Moyen-Orient, en fait, il a toujours été. C'est à devenir fou. Le Christ a toujours existé. Il était avant la fondation du monde, l'agneau immolé. Et Dieu a voulu, dans son amour, rendre cette réalité qui a toujours existé, la rendre perceptible par amour pour nous, en envoyant son Fils historiquement vivre au milieu de nous. Dieu parmi nous. C'est la plus grande, je dirais, preuve d'amour que quand l'éternité quitte cette éternité pour devenir une histoire historique. C'est terrible quand même. Vous rendez compte, c'est comme si on prenait l'océan et on le condensait dans un verre. Quelle souffrance! Et c'est dans cette souffrance que Dieu nous a montré son amour. Ne limitons pas le Seigneur seulement à cet être historique, parce qu'il est plus que ça. Et d'ailleurs, quand on voit nos religions, ce qu'ils ont fait de lui, vous voyez, une croix, un être crucifié avec lui, on voit ça dans les maisons, etc. On a réduit même ça à quelque chose de visible, alors qu'il est plus que ça. Trois mots seulement, regardant à Jésus. Trois mots seulement, et pourtant, tout le secret de la vie chrétienne est là. Donc aujourd'hui, nous allons en fait faire un rappel de ce qu'on appelle le bon sens chrétien. Tout ce que nous croyons, mais à travers trois mots. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus dans l'Écriture pour y apprendre ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il donne, ce qu'il demande, pour trouver dans son caractère notre modèle. Dans ses enseignements, notre instruction. Dans ses préceptes, notre loi. Dans ses promesses, notre appui. Dans sa personne et dans son œuvre, une pleine satisfaction offerte à tous les besoins de notre âme. Regardons à Jésus parce qu'il nous suffit. Oui, regardons à Jésus crucifié pour trouver dans son sang répandu notre rançon, notre pardon, notre paix. Regardons à Jésus ressuscité pour trouver en lui la justice qui seul nous justifie et nous permet de nous approcher avec assurance en son nom de celui qui est sans Père et notre Père, sans Dieu et notre Dieu. Regardons à Jésus, glorifié, pour trouver en lui notre céleste avocat, complétant par son intercession continuelle de tous les jours, même aujourd'hui, l'œuvre de sa miséricorde et de notre salut. Comparaissant maintenant même pour nous devant la face de Dieu pour nous défendre. Et à travers lui, le Seigneur nous regarde pur et parfait. En dehors de lui, nous sommes souillés, il ne nous regarde même pas. Regardons à Jésus, révélé par le Saint-Esprit et non par nos études théologiques, par nos capacités intellectuelles. Regardons à Jésus, révélé par le Saint-Esprit qui ne demande aucun diplôme. Révélé par le Saint-Esprit qui se révèle aux humbles. Révélé par le Saint-Esprit pour trouver dans sa communion constante la purification de nos cœurs souillés, l'illumination de nos esprits obscurcis, la transformation et la métamorphose de nos volontés rebelles pour être rendus capables de triompher de tous les assauts du monde et du malin. C'est Christ, par révélation, que nous pouvons lutter contre le monde et contre le diable. Regardons à Jésus qui donne la repentance. La repentance n'est pas humaine. La repentance est déclenchée par Dieu lui-même. Regardons à Jésus qui donne la repentance aussi bien que la rémission des péchés pour qu'il nous fasse la grâce de connaître, de déplorer, de confesser et de délaisser nos transgressions. Regardons à Jésus pour recevoir de lui la tâche et la croix de chaque jour, avec la grâce qui suffit pour porter la croix et accomplir la tâche qui nous est confiée. Regardons à Jésus pour ne pas lui dire « Que puis-je faire ?» mais « Que veux-tu que je fasse ?» Regardons à Jésus comme l'apôtre Paul sur la route de Damas, quand la lumière a jailli et lui a donné l'aveuglement. Il n'a pas dit « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Il a posé une première question. « Qui es-tu, Seigneur ?» La lumière, la révélation a poussé Paul à poser une question que nous devons poser en tant que chrétiens. « Qui es-tu, Seigneur ?» C'est une question d'humilité. S'asseoir, s'arrêter pour attendre que le Seigneur se révèle. Et c'est quand il se révèle en nous d'une manière progressive que nous apprenons à lui dire « Que veux-tu que je fasse ?» Aujourd'hui, nous inversons. Je suis chrétien, j'ai ma capacité, j'ai mes dons, j'ai des diplômes, j'ai je ne sais pas quoi. Que veux-tu que je fasse ? Il dit, je ne veux rien. Je veux que tu meures. Et quand tu seras mort, réaliser ma mort, alors je te dirai ce que je veux de toi, ce que je veux faire à travers toi. Regardant à Jésus pour recevoir de lui, pour sortir de nous-mêmes et nous oublier. Oui, regarder à Jésus, c'est que nous devons nous effacer pour que nos ténèbres se dissipent à la clarté de sa face, pour que nos joies soient saintes, que notre joie humaine se transforme en joie céleste. La joie humaine est périssable, elle disparaîtra, mais la joie céleste est éternelle. Regardons à Jésus qui, rentré dans la maison de son père, s'occupe de nous, s'occupe à nous y préparer une place. Oui, le Seigneur, en ce moment, il est en train de nous préparer une place. Mais il nous prépare une place, il prépare la place, mais en même temps, il prépare la personne qui va occuper la place. On pense à la place, mais on oublie la personne. La place n'est les saints et les saintes. Quelqu'un de souillé ne peut pas occuper une place sainte. Donc le Seigneur nous prépare pour occuper une place qui nous prépare. Il n'y a rien d'autre pour nous préparer que ce qu'il a fait à la croix soit aussi notre façon de vivre de tous les jours. Pas par nos efforts, mais parce que lui, il nous guide sur ses efforts et à travers ce que nous vivons de tous les jours. Oui, il s'occupe à nous y préparer une place pour que cette bienheureuse perspective nous fasse vivre dans l'espérance. Et nous l'avons, l'espérance. Il nous prépare à mourir dans la paix. Quand viendra le jour de rencontrer ce dernier ennemi qu'il a vaincu pour nous, que nous vaincrons par lui. Cet ennemi, c'est pas, je ne parle pas du diable, je parle de la mort. C'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Regardons à Jésus, dans le retour est certain et nous le croyons. Dans le retour est certain à une époque incertaine, nous ne connaissons pas. Gare à ses calculs, à ses prévisions. Pour dire à quel moment il va venir, on peut même calculer le jour. Il viendra, le Seigneur viendra comme un voleur. Et on ne s'en rendra même pas compte, peut-être. Mais par contre, nous devons être prêts comme s'il revenait maintenant. Le retour certain à une époque incertaine et de siècle en siècle, l'attente et l'espoir de l'Église fidèle se fait jour. Cette attente nous encourage en tant qu'Église, mais en même temps, elle nous rend vigilants. Regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Tout le monde a ce don de la foi. Quand Dieu nous a créés, il a créé ça aussi en nous, la foi. Mais la seule chose, c'est que le seul qui peut l'animer en nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est le chef et le consommateur de la foi. C'est-à-dire celui qui en est le modèle et la source, comme il en est l'objet. Et qui, du premier pas jusqu'au dernier, marche à la tête des croyants. Il ne marche pas derrière, à la tête des croyants. Afin que par lui, notre foi soit inspirée, encouragée, soutenue, amenée à sa consommation suprême. Regardant à Jésus et à rien d'autre. Regardons à Jésus et à rien d'autre. Regardons à Jésus qui nous prescrit à la fois de fixer nos regards sur lui, Dieu lui-même qui nous demande de regarder à lui seul, et de détourner nos regards sur tout le reste. regardons à Jésus et non point à nous-mêmes, à nos pensées, à nos raisonnements, à nos imaginations, à nos goûts, à nos désirs et à nos projets. Tout un programme. Regardons à Jésus et non point au monde et à ses convoitises. Regardons à Jésus et non point à Satan. Soit qu'il cherche à nous effrayer par ses fureurs ou à nous séduire par ses flatteries. Voyez. Combien nous pourrons nous épargner des questions inutiles en regardant à Jésus. Combien de temps perdu à nous lamenter, à courir derrière des savoirs et des méthodes, alors qu'il suffit de regarder à Jésus. Et si nous n'arrivons pas à le faire, il suffit de le reconnaître, de le confesser devant lui, dans sa solitude. Seigneur, je veux me libérer, mais je n'arrive pas. C'est une des meilleures prières d'humilité et de simplicité. Je sais que c'est comme ça, mais je n'arrive pas. Quelque part, je reconnais mes limites. Regardons à Jésus et non point à nos systèmes, si évangéliques qu'ils puissent être. La foi qui sauve, qui sanctifie et qui console, ce n'est pas l'assentiment ou être d'accord avec la doctrine. C'est l'attachement à la personne du Sauveur, de Jésus. C'est Christ qui doit primer. Pas les assemblées, pas les doctrines, pas les unions, je ne sais quoi. Christ et Christ seul. Il ne suffit pas de savoir Jésus, mais il faut avoir Jésus. Ça n'a rien à voir. Je peux ne pas avoir le savoir, mais je peux avoir le Seigneur. D'ailleurs, je dirais même, il vaut mieux avoir Jésus, même si on n'a pas le savoir. J'irais même plus loin. Souvent, le savoir devient un frein à avoir Jésus. Regardons à Jésus et non point à nos méditations et à nos prières, à nos conversations pieuses, à nos lectures édifiantes, à nos assemblées que nous fréquentons, ni même à notre participation à la Sainte Cène. Usons fidèlement de tous ces moyens. Ce sont des moyens de grâce, écrits dans la parole de Dieu, mais sans les confondre avec la grâce elle-même, et sans détourner notre regard de celui qui seul les rend efficaces. Tout ce que nous faisons est efficace, c'est parce que nous sommes en Christ, nous avons le regard sur Christ. Sinon, ça n'a aucune inutilité, et même pire, ça peut devenir un jugement contre nous-mêmes. Et à chaque fois, quand on prend la Sainte Cène, nous lisons Corinthiens. Pour que ce ne soit pas ce que nous faisons, un jugement sur nous-mêmes. Si nous le faisons, parce qu'il y a d'abord une racine, c'est Christ. Mais si nous n'avons pas le regard fixé sur Christ, cette communion recherchée du fond du cœur, ce que nous faisons devient un jugement contre nous-mêmes. Regardons à Jésus et non pas à notre position dans l'Église, à la famille à laquelle nous appartenons, non pas à notre position en tant que baptisé ou pas, à l'éducation que nous avons reçue, à la doctrine que nous professons, à l'idée que d'autres se font de notre piété, à ce que nous avons fait pour l'Église, je sais quoi, ou à présider ou à prêcher, si ce n'est regarder à Jésus et à Jésus seul. Plusieurs de ceux qui auront prophétisé au nom de Jésus l'entendront un jour leur dire « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. » Et là, je vous envoie à lire le passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 21 et 24. Et là, nous devons trembler quand on lit ce passage-là. Plusieurs me diront « On a prophétisé en ton nom, on a fait plein de choses !» La Sainte Cène, on a évangélisé, on a construit une maison, on a tout ce qu'on veut. Dieu. Et pourtant, il leur dit, est-ce que vous avez regardé à Jésus? Est-ce que la croix a fait son œuvre en vous? Est-ce que j'étais votre chef? Est-ce que vous m'avez suivi? Et pas tout ça. Ben, retirez-vous de moi, la place que j'ai préparée n'est pas pour vous. C'est terrible quand même d'en arriver là. regardant à Jésus et non point à nos frères. Non pas même aux meilleurs d'entre eux. Non plus aux plus aimés d'entre eux. En suivant un homme, nous courons le risque de nous égarer. Vous comprenez mes propos ? Quand je dis ne pas regarder, ce n'est pas dans le sens de le rejeter, mais en faire une priorité, à le piédestal, pour dire à travers cette personne, je ne sais pas moi, je peux avoir un accès au savoir, ou à Dieu, je sais quoi. C'est dans ce sens-là. Bien sûr qu'il faut aimer son frère, mais quand on a le Seigneur au centre, quand on regarde à Jésus, la question ne se pose même pas. J'aimerais mon frère, j'aimerais ma sœur d'une manière naturelle. Regardons à Jésus et non pas à ses ennemis, à nos ennemis. Au lieu de les haïr et de les redouter, nous saurons alors les aimer et les vaincre. Pas par nos efforts, mais par notre position. Parce que c'est le Seigneur qui les aime à travers nous. Parce que notre incapacité d'aimer est anéantie par la croix. À la place, il y a l'amour divin. Et nous nous étonnerons. Et nous nous étonnons de nous voir d'un seul coup aimer nos ennemis, alors qu'on n'a rien fait. Parce que humainement, on aurait été incapable. Parce que le Seigneur le fait à travers nous. Regardons à Jésus et non point aux obstacles qui se rencontrent sur notre chemin. Dès que nous nous arrêtons à les considérer, ils nous étonnent, nous ébranlent, nous abattent, incapables que nous sommes de comprendre soit la raison pour laquelle ils sont permis, soit le moyen par lequel nous pourrons les surmonter, mais nous saurons que Dieu prend contrôle de toutes choses. Nous nous réjouirons par avance de l'issue de l'épreuve, parce que nous savons en Christ, rien ne se fait sans qu'il le permet. Et Seigneur, que veux-tu m'apprendre ? Et je me réjouis déjà de l'issue de l'épreuve. Regardons à Jésus et non point à nos afflictions. Humainement parlant, ce langage je ne peux pas le tenir, parce que qui peut accepter l'affliction ? Mais seulement en Christ, le Seigneur nous donne une joie surnaturelle qui dépasse et qui couvre nos afflictions. Regardons à Jésus et non point au plus cher et au plus légitime de nos joies terrestres. De peur d'en être tellement captivés qu'elles nous débordent, qu'elles nous dérobent la vue de celui-même qui nous les donne. Regardons à lui tout d'abord. C'est de lui que nous recevrons ses bienfaits, plus précieux, mille fois parce que nous les tiendrons de sa bonté pour les confier à sa garde, pour en jouir dans sa communion et pour en user à sa gloire. En Christ que nous pourrons vivre tout cela. Regardons à Jésus et non point aux intérêts et non pas aux intérêts de notre cause. Souvent nous défendons notre cause devant le Seigneur. Ce n'est pas normal, je sais juste, même dans le cadre de mon travail, j'ai vécu cela. Ce n'est pas normal ce que je vis là. C'est injuste. Comment le Seigneur ? Je vais me défendre au nom du Seigneur. Vous vous rendez compte ? Je l'ai fait. Je l'ai vécu. Et Toby pourra témoigner. C'est une situation que j'en ai vécue dernièrement. Jusqu'à écrire, jusqu'à défendre. Je veux dire, c'est pas normal. C'est injuste. Et c'est vrai, humainement, c'est injuste. Et j'ai plaidé ma cause devant les hommes. Regardons à Jésus et non point aux intérêts de notre cause, de notre parti, de notre Église. Ce n'est pas normal, ce gouvernement qui nous interdit de nous réunir. Vous voyez, c'est exactement pareil. Et on est tous pareils. On a tous dit la même chose. Nous plaidons notre cause auprès des hommes. Le Seigneur nous dit, à travers l'épreuve que nous vivons, vous allez la traverser en ma présence et je guide toutes choses. L'unique objet de notre vie, c'est la gloire de Dieu. Si nous n'en faisons pas le but suprême de nos efforts, nous nous privons nécessairement de son secours. Il vous dira, réglez vos problèmes avec les hommes. J'ai plus de place là-dedans. Regardons à Jésus et non point à la sincérité de nos intentions ou à la fermeté de nos résolutions. Oui ? Combien de fois les desseins les plus excellents n'ont servi qu'à préparer les défaites les plus humiliantes. N'oublions pas cela. Appuyons-nous non sur nos intentions, bonnes soient-elles, mais sur son amour, sur sa volonté, sur la foi qui l'anime tout seul, mais pas sur nos résolutions. Appuyons-nous sur sa promesse. Regardons à Jésus et non point à notre force. Notre force n'est bonne qu'à nous glorifier nous-mêmes. Pour glorifier Dieu, il faut la force de Dieu, donc la nôtre doit disparaître. Ou plutôt, remplacée par celle de Dieu. Regardons à Jésus et non point à notre faiblesse. À se lamenter sur nos faiblesses. Sommes-nous jamais devenus plus forts en nous se lamentant sur les faiblesses? Regardons à Jésus et sa force se communiquera à nos cœurs, sa louange éclatera sur nos lèvres et nous nous étonnerons encore une fois en train de chanter, de louer, alors que nous sommes dans la faiblesse. Regardons à Jésus et non point et non à nos péchés. Nos péchés sont pardonnés. Si je le répète tous les jours, pardonne-moi Seigneur, c'est que quelque part il y a un problème. S'il y a un péché que le Seigneur nous montre, Seigneur, je viens vers toi, au pied de la croix, je dépose mon péché. Ta parole me dit que du moment que je confesse mon péché, je suis pardonné, le sang de Jésus m'a lavé. Mais je ne reviens plus sur ce péché. Même s'il revient le lendemain ou après-demain. Parce que si je reviens le lendemain ou après-demain, c'est que je ne suis pas sûr que je suis pardonné. Seigneur, je demande pardon. Et même si demain je vis toujours le même péché, je sais que tu m'as déjà pardonné. Maintenant, j'attends à la délivrance. À ton temps. Il nous étonnera, encore une fois, en sentant à lui, quand ça devient même inconscient chez nous, nous sommes libérés. Oui, regardons à Jésus et non point à nos péchés. À la source dont il procède, au châtiment qu'il mérite, ne regardons à nous-mêmes que pour reconnaître combien nous avons besoin de regarder à lui. Et cela, non pas comme si nous n'étions point pécheurs, mais au contraire, parce que nous le sommes, mesurons la grandeur même de notre offense à celle du sacrifice qu'il a expié et de la grâce qu'il a pardonné. La contemplation du péché ne donne que la mort. La contemplation de Jésus donne la vie. Ce qui guérissait les Israélites au désert, ce n'était pas de considérer ses plaies, mais de lever les yeux vers le serpent d'airain, vers Christ. Regardons à Jésus et non pas à notre prétendue justice humaine. Malade entre tous les malades est celui qui se croit en bonne santé. Lisez les Béatitudes. Heureux les affligés, car quand vous lisez les Béatitudes, on se rendra compte que si on nous croyait en être en bonne santé, c'est là que le voile nous cache que nous sommes malades. Regardons à Jésus et non point à la loi. Encore une fois, la loi donne des ordres et ne donne point de force pour les exécuter. La loi condamne toujours et ne pardonne jamais. Nous replacer sous la loi, c'est nous soustraire à la grâce, c'est nous condamner tous les jours. Dans la mesure où nous faisons de notre obéissance le moyen de notre salut, nous perdrons notre paix, notre force, notre joie, pour avoir oublié que Jésus est la fin de la loi, en justice et en tout croyant. C'est ce qui m'a amené de la religion de mes ancêtres au christianisme. De la loi à la grâce. Regardons à Jésus et non point à ce que nous faisons pour lui. Souvent, qu'est-ce que je fais pour toi? Pour lui. Trop occupés de notre œuvre, ne pouvons oublier notre maître. Il est possible d'avoir les mains pleines, mais le cœur vide. Mais l'inverse est meilleur. Il faut que le cœur soit plein pour qu'il dise à la main, fait. Regardons à Jésus et non point au succès apparent de nos efforts. Le succès apparent n'est pas la mesure du succès réel. Et d'ailleurs, Dieu ne nous a pas donné d'ordre de réussir, mais de travailler. C'est de notre travail qu'il nous demandera des comptes, et non pas de notre succès. Et notre travail dépend de lui, c'est lui qui révèle ce que nous devons faire ou pas. Regardons à Jésus, et non point au degré de douleur que nous font éprouver nos péchés. Nous sommes tous pareils. Quand nous péchons, qu'il y ait péché, nous souffrons. Nous sommes conscients que ces péchés, ça déplaît à Dieu. Et pourtant, notre nature, elle nous fait tomber dans les péchés. Et bien, cette situation-là, le Seigneur nous a délivrés. Et il nous dit, je vous ai pardonné, et même le péché vous torture, vous êtes libre. Mais plus vous apprendrez à me regarder, plus vous réaliserez qu'une autre vie en vous vous libérera de cette condamnation quotidienne. Si seulement nous en sommes assez humiliés pour ne plus nous complaire en nous-mêmes, si nous en sommes assez affligés pour regarder à Jésus afin qu'il nous en délivre, c'est tout ce qu'il demande de nous, et c'est aussi ce regard qui, plus que tout le reste, fera couler nos larmes et tomber nos orgueils. Et quand il nous est donné, comme à Pierre, de pleurer amèrement, rappelez-vous, Pierre, m'aimes-tu? Il l'a répété 3 fois. Parce qu'il avait dit aussi 3 fois, je t'aime, je vais te défendre. C'est pour lui montrer ses limites. Tu te rappelles ce que tu as dit, hein? Et en lui rappelant, il a créé une tristesse en lui. Mais cette tristesse a créé une joie immense après. Parce qu'il a réalisé qu'il ne peut pas le servir par lui-même, par ses forces, mais seulement par l'Esprit Saint. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le premier qui a pris la parole, Pierre. C'est plus ses forces maintenant, c'est l'Esprit Saint. Regardons à Jésus et non point à notre foi. La dernière ruse de l'adversaire, quand il ne peut nous faire regarder ailleurs, c'est de détourner nos yeux de notre Sauveur sur notre foi. Oui, le but de l'adversaire, c'est toujours nous dévier du regard de Jésus, du Seigneur Jésus. Regardons à Jésus, car c'est de lui et en lui que nous apprendrons à connaître, à nous connaître, à le connaître, à connaître ce qu'il est bon que nous connaissions du monde et de nous-mêmes, à apprendre nos misères, de nos périls, de nos ressources, de nos victoires, voyant toutes choses sous leur vrai jour, parce que c'est lui qui nous les fera voir. Toujours le Seigneur au centre. Regardons à Jésus pendant le temps qui nous reste sur la terre. Et le temps est court. Pensez pas de ce qui va nous arriver après. Regardons à Jésus. Parce qu'il nous a préparé une place. Cette place doit être occupée par un être préparé. Pendant le temps qui nous reste sur la terre, sans nous laisser distraire, ni par les souvenirs d'un passé que nous devons laisser derrière nous, ni par les préoccupations d'un avenir dont nous ne connaissons rien. Regardons à Jésus maintenant, si nous n'avons jamais regardé à lui. Regardons à Jésus à nouveau, si nous avons cessé de le faire. Regardons à Jésus seul. Regardons à Jésus encore et encore. Regardons à Jésus toujours, d'un regard de plus en plus assidu, de plus en plus assuré. Et ainsi. Attendons l'heure où il nous appellera à passer de la terre au ciel et du temps à l'éternité. Amen.